Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Ce soir, c'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, on va parler de polar, de manga, on va parler de ninja, de recyclage, de fantasy, peut-être de cow-boy et de plein de choses. Mais tout d'abord, on met le générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb. Seb au micro. Nous sommes là pendant une heure et nous allons profiter des ondes radiophoniques pour projeter directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Je ne suis pas tout seul, une fois n'est pas coutume, je suis en compagnie de Luc.
Salut Seb.
Ça va bien ?
Écoute, la forme.
Parfait, je suis en compagnie de Fabien.
Salut Seb, salut à
ça
tous.
Ça roule.
Impeccable.
Et de Richard.
Salut Seb, salut Fabien, salut Luc.
Eh ben, décidément, une Dream Team de choc encore pour vous ce soir. On va parler de plein de trucs. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Qui veut commencer? Alors, je te voyais lorgner un peu sur mes mangas, Fabien, tout à l'heure.
Oui.
Il y avait des choses qui te faisaient un peu envie.
Oui, oui, j'ai entendu parler de pas mal de petites choses. Under Ninja, notamment. Qui me faisait un peu de l'œil.
Eh ben, on peut commencer par ça.
Vas-y.
Under Ninja, c'est une série, du coup, de ninja, comme son nom l'indique, qui est publiée chez Pika Édition. Il y a 3 tomes actuellement. Je crois que le tome n'est pas tout à fait encore sorti, même si j'ai eu l'occasion de mettre mes sales doigts dessus. C'est une série qui est pour l'instant en 8 tomes, toujours en cours au Japon. Peut-être 10 maintenant. Voilà. Comment expliquer ça? Si vous avez tous vu Naruto, vous savez que les ninjas, ils ont pas tous le même niveau. Faut passer les genin, junin, j'ai plus les noms des grades, mais il y a des grades. Et faut imaginer que les ninjas, ils sont là depuis beaucoup d'années, et que même à notre ère moderne, les ninjas continuent d'exister. Donc ils accomplissent différentes missions en fonction de leur grade. Et on va suivre un personnage qui est un ninja. On va pas dire un sous-ninja, mais c'est un ninja de bas niveau qui se contente de petites missions plutôt un peu nulles. Et puis un jour, il va se voir confier une mission qui a l'air d'être d'un rang beaucoup trop important pour lui. Et c'est le début d'une série qui fonctionne bien, qui est très drôle, puisqu'on voit un ninja... La thématique de Pika quand ils ont sorti le truc, c'était de dire, vous le savez peut-être pas, mais il y a peut-être un ninja dans la pièce où vous vous trouvez, parce qu'ils sont tellement bons.
Serait-ce le cas aujourd'hui?
Ben c'est probable. D'ailleurs, on a une chaise vide et un micro rouge. Si le ninja veut parler, on lui laisse. Mais c'est complètement barré de voir ce ninja qui est pas un ninja sans le sou, mais c'est un ninja du quotidien. Il va aller piquer une petite culotte à la voisine et faire tout pour ne pas se faire gauler avec des techniques de ninja.
C'est léger.
C'est léger et en même temps ça implique des trucs un peu plus parce que c'est une caste à part. C'est une caste qui est censée être une caste d'élite et même au sein de cette caste d'élite, ils ont des gens qui sont un petit peu à part. Donc c'est un peu barré. Le personnage au départ, tu te dis mais c'est qui ce glandu? Parce que vraiment même le plus bas ninja qu'on va pouvoir trouver dans Naruto. Il est censé lui mettre une peignée pour utiliser des mots propres. Et en fait, le gars, dans sa vie de tous les jours, il fait des choses que nous, on serait pas capable de faire. Et il les utilise parce que lui, il est complètement habilité. Enfin, c'est son habitude, en fait, de faire ça.
Mmh. Habitué.
Habitué, voilà. Et c'est, ça fait partie de son quotidien. Et du coup, bah, il reçoit cette espèce de mission qu'il aurait sans doute pas dû recevoir, avec un équipement qui a l'air d'être bien trop au point pour lui, pour le niveau qu'il a. Et ça l'emmène dans une machination qui va aller bien au-delà de ce qu'il pourrait avoir, ne serait-ce qu'imaginer un jour. Donc c'est une série qui est plutôt cool, c'est une série qui est plutôt récente, puisque ça a commencé en 2018. Donc c'est voilà, le temps de trad et tout, ça fait que ça arrive quand même assez vite chez nous. Et il y a un animé qui est sorti très récemment, donc je ne sais pas si tu l'as vu, Fabien, non plus.
Non, c'est vrai que niveau animé, j'ai du mal à suivre.
Ben moi, je voudrais faire ça.
Je savais même pas qu'il y avait Thunder Ninja, il avait l'animé, tu vois, j'étais pas au courant.
Enfin, on va retrouver les informations, mais c'est vraiment très récent la sortie animée, je crois que ça a que quelques mois, grand maximum. C'est sorti bah, en 2023. Merci de mettre les mois sur les sites Nautiljon. Merci, s'il vous plaît. C'est sorti le 5 octobre 2023. Donc, c'est vraiment assez récent.
En effet.
Et pour l'instant, on n'a qu'une seule saison de commencer. Donc, je ne sais pas ce que vaut l'animé. En tout cas, le manga est très drôle. C'est très sympa. Graphiquement, on n'en a pas parlé. On est plutôt sur un trait globalement assez réaliste. Tiens, bah, passe-les à Fabien. On va regarder. Du coup, ça marche bien. Ça donne des scènes qui sont complètement incongrues, puisque voir effectivement ce jeune garçon qui grimpe au mur juste au-dessus de la nana qui est en train d'étendre son linge, ben, c'est le truc, tu dis, ouais, peut-être qu'en fait, chez moi, j'ai un ninja quelque part, et que il est dans mon angle mort, je ne le vois pas, et ça marche bien.
Les dessins sont très cool.
Ouais.
Les décors, je trouve que les décors sont vraiment très sympas.
C'est bien travaillé, ouais. Visuellement, c'est plutôt léché au niveau esthétique. Il y a, comme tu le disais, pas mal de décors, ce qui manque parfois dans certains mangas. Et on a ce trait globalement très réaliste, sans avoir les espèces de grimaces qu'on peut avoir, qui est un humour globalement assez grotesque et plutôt japonais. Où ils font des tronches un peu bizarres. Ça, on l'a pas dedans, même si on voit le personnage des fois qui fait des grimaces et qui, ça marche, quoi.
Ouais, c'est hyper réaliste niveau visage. C'est pas style animé comme le manga que je vais pouvoir présenter, mais c'est assez drôle. Je crois que c'est la première fois que je vois ça, moi, en tant que lecteur de manga.
Ah ben, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de le lire. Il y a une diversité de choses dans le manga. Faut pas s'arrêter à. C'est pas pour les dénigrer, hein, mais y a autre chose que Dragon Ball ou One Piece, Naruto. Voilà.
C'est quoi?
Oui.
Je connais pas. Qu'est-ce que c'est?
Tu connais pas?
Non. Après, là, j'imagine qu'on est plus sur un seinen malgré tout, parce que je l'ai pas lu.
Ouais. On est plus sur un seinen. C'est des thématiques
ça
qui sont
voilà. Dans le dessin déjà même.
Oui, c'est pas un dessin qui est fait pour attirer du jeune, même si il y a pas de violence outre mesure. C'est des thématiques matures. Mais c'est pas, on va pas aller dans le gore comme on peut avoir des fois ou dans la violence gratuite comme on a beaucoup aussi pas mal.
Ouais.
Okay. Comme je parlerai peut-être tout à l'heure aussi un peu. Hmm. Enfin voilà, si vous voulez, Under Ninja c'est publié chez Piqué Édition. Le dessin et le scénario sont de Kengo Hanazawa et pour l'instant on a 3 tomes publiés en France, 8 tomes au Japon. Donc faut pas hésiter à y aller, c'est vraiment très sympa. Est-ce que on reste sur du manga, qui veut continuer, ou est-ce qu'on parle sur du polar, on alterne un petit peu?
Comme tu préfères.
J'ai pas de préférence, hein, c'est pour ça que je pose la question. Okay. Allez, on va faire le baptême du feu de Richard, et puis on se moquera après pendant la pause, si on veut.
Ah!
Richard, il m'a dit, dis donc, moi j'aimerais bien à un moment parler peut-être d'un manga, parce que j'aime bien le manga, et je trouve ça cool. Je dis, bah écoute, fais-toi plaisir, choisis quelque chose que t'aimes bien, et n'hésite pas à venir nous en parler.
Eh bien, je vais vous parler du premier manga dont j'avais en tête, dont j'avais envie de te parler, Seb, à savoir Drop Frame, qui est une série de 4 tomes édités chez Doki Doki en 2018, en mars 2018, il me semble.
Ok, c'est pas très vieux non plus.
Non, ça va. Mais il me semblait que c'était beaucoup plus vieux que ça, mais en fait, non. Je vous passe
ça
le manga.
Ça fait quand même 6 ans, hein, presque. Vois. Tout dépend de quand est-ce que c'est sorti, mais.
Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les tranches de vie, les romances. Alors, j'ai passé le
ce
premier.
Pas
j'ai passé le premier tome à Fabien, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est ça.
Et j'ai commencé à passer les autres tomes à Luc et à Seb. Je vais à peu près résumer le tome 1. C'est malheureux, mais il faut que je vous résume un petit peu ça parce que ça s'arrête pas juste à de la tranche de vie, à de la romance et à des lycéens. En gros, pour vous faire un avis, ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis de 16 ans, à savoir Jonosuke, qui est le personnage principal, qui est fan, qui adore faire du flipbook avec ses manuels scolaires, qui s'est dit, bon, bah, en fait, le flipbook, c'est un peu comme le montage vidéo, en fait, c'est des images derrière les images, et puis on y va.
Complètement.
Et il a rencontré une fille qui lui a proposé, Nozomi, qui lui a proposé de faire un groupe pour les vacances d'août, et de faire un court métrage en un mois pour qu'il soit prêt à la rentrée scolaire. Il est accompagné de Akari, une fille amie d'enfance qui fera donc la costumière, et de Shin, un opérateur décorateur qui a piqué la caméra de son père pour faire en fait leur film d'été.
Okay.
Et ça a l'air trop cool comme idée d'avoir ce petit groupe qui va faire un film d'été. Ce qu'il y a, c'est que dans ces quatre personnages là, bah en fait il y en a aucun qui est chaud pour faire l'acteur.
C'est cool, ça.
Ce qui est problématique.
Ou alors il faut trouver un acteur parmi d'autres personnes, quoi.
C'est ça. Et en fait le premier jour, il commence à tourner, il voit qu'il y a un souci, et souvent donc Nozomi, la réal script, celle qui a lancé l'idée de ce projet, les emmène au fur et à mesure dans des lieux de tournage qu'elle a elle-même visité et qu'elle veut se servir. Et genre, le deuxième lieu de tournage, en fait, elle les emmène dans un champ de tournesol, et Jonosuke rencontre par hasard, au milieu de ce champ de tournesol, un cinquième personnage, à savoir Lou Kanata, qui est une métisse anglaise-japonaise qui est là pour les vacances. Et qui n'a rien à faire parce qu'elle connaît personne. Donc on lui propose simplement de venir tourner avec eux. Et c'est trop cool parce qu'elle accepte, et il y a ce groupe d'amis qui se forme.
Et c'est elle qui va faire le personnage principal.
Tout à fait.
Voilà.
Ça c'est le chapitre 1. Donc voilà, ça se met en place. Le chapitre 2, on avance un petit peu dans les vacances. On avance au 5 août. Et à savoir qu'on apprend que Jonosuke, en fait, dans sa famille, c'est un anniversaire de mort, puisque une autre amie d'enfance est morte ce jour-là, et de manière complètement tragique. On ne sait pas pourquoi elle a disparu, et les policiers n'ont rien pu faire. Bon, on voit qu'il a quand même deux trois traumatismes, Jonosuke. Et plus tard, il avoue un petit peu ce traumatiste à ses amis, et il se rapproche aussi de la jeune fille, la nouvelle Lou, et donc il s'avoue progressivement chacun leurs sentiments, mais genre tout doucement. Chapitre 3, un petit peu plus tard, ils vont au parc à thème, et là c'est grosse déclaration d'amour entre Jonosuke et Lou. Grosse déclaration d'amour comment dire,
dans la grande roue,
dans la nacelle, dans la nacelle, dans la grande roue,
le petit
le cliché.
Chapitre 4, on avance encore, on va au 20 août, c'est le festival d'été, c'est aussi le deuxième rendez-vous de Jonosuke et de Lou, rendez-vous un peu secret qui se fait en seconde partie de soirée.
Ok.
Et le souci, c'est qu'à la fin de ce chapitre 4, Jonosuke rejoint Lou dans un lieu qu'ils avaient dit, et en fait, il la retrouve morte. Dépecé.
Ah oui.
Changement d'atmosphère là.
C'est ça. On n'est plus très très positif là.
Et bah clairement en fait là littéralement on est dans les dernières pages du tome 1 et on voit que Jonosuke commence à se poser plein de questions, mais ça vient de nulle part. Il y a personne qui. Il y avait pas de danger qui nous surveillait. Enfin.
Pourquoi?
Clairement ouais, pourquoi? Petite ellipse temporelle. Jonosuke se réveille chez lui. Ça sonne chez lui. Il n'a pas entendu le réveil.
Ring, ring.
Ses amis l'appellent, fait ouais, t'es en retard pour le tournage. Il va ouvrir. Et en fait, Lou est là.
Et il est revenu dans le temps.
Et la dernière page nous indique qu'en fait, il est revenu dans le temps, à savoir le 4 août.
Ah! Ok. Et
lui, se souvient de tout, bien sûr.
Et lui, se souvient de tout.
Ouais, forcément.
Par contre, il ne comprend pas comment il voyage dans le temps, et encore moins ce qu'il peut faire pour éviter ce drame. Voilà, je vous en dirai pas plus.
Ah oui, oui, c'est intéressant. C'est intéressant dans la fiction, les boucles temporelles comme ça, c'est régulièrement utilisé, et ça oblige à faire des nœuds au cerveau parce que on arrive dès qu'on commence à imaginer qu'on peut intervenir. On se dit, bah oui, mais si on intervient, la suite va plus être la même. Donc, je me réveillerai peut-être pas finalement. Donc, enfin bon, voilà, c'est, et je trouve que c'est intéressant. Enfin, oui.
Il y a beaucoup d'œuvres, hein, qui utilisent ça.
Oui.
Bon ou mauvais escient, parfois, parce que c'est pas facile, hein, pour les scénaristes, s'y retrouver.
Après, potentiellement, en fait, il me semble de mémoire qu'il va être obligé de toute façon de résoudre un peu ce meurtre parce que, quand il voyage dans les tout derniers jours d'août, bah, en fait, il se retrouve en prison. Des fois, il va se réveiller, il va faire, bon, bah, peut-être que demain, je vais tomber sur une bonne journée qui va pouvoir m'aider à enquêter. Et en fait, bah, cette journée, elle est cramée parce qu'il est, en cellule.
Pas cool.
Voilà. Okay. Voilà. C'était Drop Frame. C'est de Nari Shinichiro.
Et t'as pas parlé du graphisme.
Le graphisme. Ah bah alors clairement, je sais pas comment décrire. Je vais vous demander un petit peu d'aide.
Moi, je vais juste donner un truc. Je trouve que les couves, elles ont pris un coup de vieux.
Oui.
Elles ont l'air très datées en fait quand même. Non mais même en termes de graphisme, c'est quelque chose qu'on voit moins maintenant sur cette mise en page ou même sur des shoujo. Tu me dis si je me trompe.
Hein. Bah, moi aussi j'ai trouvé ça. C'est pour ça qu'au départ quand tu disais que tu pensais que c'était un vieux manga, ça m'avait pas trop surpris.
Ouais.
C'est après en voyant la date, je me suis dit, c'est vrai que c'était pas si vieux que ça. Mais on est sur du graphisme de romance en fait au départ, vraiment. Alors après peut-être que vu que ça a l'air de partir sur autre chose, peut-être que le graphisme change un peu au fil du manga. Avec des images, voilà, comme tu me montres là, ou qui ont l'air, qui amènent un peu plus le côté pas horrifique, mais on va dire surprenant et thriller un peu plus.
Ouais.
Mais c'est vrai que les premières pages, quand tu m'avais passé le tome 1, parce que moi j'ai feuilleté que le tome 1 au début, et je me suis dit on est sur du shoujo ou voir un shonen romantique, ça avait l'air d'être un peu plus ça, et qui semble partir sur autre chose par la suite, quoi.
Et puis il y a plein de, enfin, moi à parcourir, je suis sur le tome 3. On a des variations graphiques, on a des passages un petit peu plus, on va dire crayonnés parce que ça se passe dans le noir, où on a quelques petits éléments graphiques qui vont peut-être aller de l'ordre du fantastique parce qu'il y a du fantastique ou des pages un peu pixelisées peut-être pour cacher les trucs un peu gore.
Ouais.
Voilà, ça passe, ça marche bien en fait.
En fait, à la fin du tome 1, je vous ai dit que le corps de Lou était retrouvé morte et dépecée. À la fin du tome 1, on voit pas ça. On voit juste qu'elle est nue dehors et c'est genre dans les premières bulles de la tome 2 qu'ils indiquent elle était dépecée, mais voilà.
Oui, ils montrent rien. On reste quand même sur pour un public plutôt jeune, j'imagine.
Ouais.
Pour éviter de passer une frontière vers un public plus adulte, c'est ça.
Eh ben écoute, merci pour cette jolie découverte, Richard.
Mais de rien.
Encore, je viens de dire une bêtise. Oui. Je viens de voir que c'est classé seinen chez Doki Doki.
Ah,
sur la tranche.
Et donc c'est pas pour les plus jeunes en fait.
Bah non.
Ah non.
C'est pas ado, c'est.
Mais pourtant le dessin pourrait y faire penser au départ.
Ben. Bah...
Comme quoi des fois.
Et surtout s'ils ont fait le choix de pas montrer de trucs un peu gore, un peu.
Ouais.
Bon. Eh ben, une belle surprise.
Ouais.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, pas forcément très longue. Alors, je vous raconte un peu ma life en ce moment, c'est un peu compliqué. Et il y a des plaisirs coupables qui nous aident à passer un peu plus le temps. C'est pour ça que là, tout de suite, je vais vous mettre Laurie et la positive attitude.
Que ce soit elle ou bien toi. Même moi, nous avons tous pleuré au moins une fois. Pour un coup dur de la vie, une jalousie. Faut pas, il arrive parfois que ton moral se casse.
Attitude, ça vous remet le moral ou ça vous fait faire un AVC?
Ah,
vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G.
Ça, c'est du choix.
Eh ben, moi, pour faire une petite dédicace à Julien, il a dit qu'il fallait pas qu'on mette des trucs trop commerciaux. Bah, du coup, ça, c'est plus tout à fait commercial. Ça passe maintenant.
Ah, c'est... Non, le vrai terme, c'est ça ne passe plus maintenant.
Ah, bon, j'avais mal compris. On était sur de la positive attitude, de la good vibes. Est-ce que tu veux enchaîner, Fabien?
Bah, écoute, ouais. Ouais, là, je vais enchaîner pour changer un peu par rapport à mes premières chroniques.
Ouais, les
là,
moins déprimants.
Bah, beaucoup moins. Là, on va vraiment être sur tranche de vie, comédie, bien-être, good vibes, tout ce qu'on veut. Et en plus du tout récent. Je vais vous parler d'Iraya Sumi, de Keigo Shinzo. Alors, peut-être que le nom de l'auteur peut dire quelque chose, parce que c'est quand même un auteur assez connu.
Ça
mais on
rien.
Est chez les Arts Noirs, donc ça reste de, quand même des...
C'est du connu, mais pour adeptes.
Ouais, même. Voilà. C'est du connu pour adeptes. On va dire ça comme ça. Du coup, c'est sorti en 2021 au Japon. Et ça vient de se sortir en 2023 chez nous. Il y a actuellement 3 tomes de sortie. Donc, je te passe ça. Et donc, du coup, c'est un seinen. Mais là, ça peut être lu quel que soit l'âge. Seinen pour n'importe quel âge, parce qu'on est vraiment sur une tranche de vie. C'est tout feel good, super sympa. Donc, de quoi ça parle? Du coup, on va suivre Hiruto Ikuta, 29 ans, qui est employé à mi-temps, insouciant et célibataire. En fait, il est ce qu'on appelle un friteur. Ils appellent ça comme ça là-bas. C'est-à-dire qu'il est employé à mi-temps et ses petits boulots...
Travaille au combini.
Ouais, bah là, c'est pas un combini. Là, il travaille dans un endroit, c'est hyper marrant, dans la ville où les gens viennent pour pêcher, dans des sortes de petits étangs. Et il est là, il donne les cannes à pêche, il donne les trucs.
Ok.
Pour les gens viennent se détendre et ils pêchent là, ils payent pour pouvoir accéder aux petits étangs en pleine ville.
Et je me permets, le Japon est toujours un monde à part avec plein de découvertes.
Ouais, c'est clair.
Et ça, voilà, ok.
Et donc, on va suivre son existence. Donc une existence toute paisible, sans, il ne s'en soucie pas du tout du lendemain, une petite maison de plein pied dont il a hérité d'une vieille voisine avec qui il se lie d'amitié, en fait, dont on voit au début du tome, parce que du coup il est vraiment hyper bienveillant, gentil avec tout le monde. Et par contre, dès qu'il y a une belle fille qu'il aimerait accoster, parce que bah, il a 29 ans, il aimerait bien avoir une petite amie et tout ça, bah, il perd tous ses moyens. Par contre, avec les personnes âgées, il est hyper naturel, ça passe hyper bien, et donc du coup... Cette vieille voisine qu'il va rencontrer, ils vont se lier énormément d'amitié, et à son décès, il va hériter de la maison de cette vieille voisine. Et du coup, on suit sa petite vie tranquille, et il va y avoir un petit changement qui va arriver, c'est qu'il y a sa cousine de 18 ans, Natsumi, qui va débarquer à Tokyo pour ses études d'art, et donc il va venir vivre chez lui. Ouais.
Non, c'est bon. C'est juste mon casque qui déconne. J'ai cru que ton micro s'était coupé d'un coup.
Ok, pas de problème. Et donc, pardon. Du coup, pas de souci. Et donc, elle arrive... et ils vont vivre ensemble. Et donc, du coup, ça va, voilà, ça va mouvementer un petit peu sa petite vie tranquille, paisible, forcément. Cousine de 18 ans, voilà, ça change. Et on va donc le suivre au quotidien avec d'autres personnages qui vont arriver avec des tempéraments différents. Et on va suivre juste sa vie, en fait. Ça va être ça tout le long, mais vraiment toujours avec ce côté, son côté rêveur, ce côté bienveillant. Et c'est vraiment génial. En fait, c'est une lecture hyper rafraîchissante. C'est, pour moi, c'est un petit bonbon. Hein. C'est des petites notes de fraîcheur, de douceur qui, quand on finit le livre, on a le sourire, en fait. Ça fait cool. Vraiment du bien de lire ce genre de titre. Donc, ça change un peu de tout dont je vous ai parlé précédemment d'ailleurs, hein, parce que là, on est vraiment sur autre chose. Et ce personnage, en fait, il a vraiment ce côté insouciant, heureux de vivre les petits moments du quotidien, donc vraiment des petites choses. Et il va se réjouir de pas grand-chose. Il aime beaucoup cuisiner, il aime faire plaisir aux gens. Voilà. Et donc, il va rencontrer d'autres protagonistes avec des tempéraments complètement différents. C'est ces rencontres, ce partage-là qu'on va suivre au fur et à mesure des lectures. Et du coup, ça en fait vraiment, moi je trouve, une lecture qui fait vraiment du bien au moral. Sincèrement, c'est hyper cool à lire. Pour l'instant, il y a 3 tomes, 6 au Japon. Et le dessin, j'ai pas parlé du dessin. Et ben, du coup, moi je le trouve super, son dessin à Keigo Shinzo. C'est un style, en fait, on ouvre un bouquin de lui, quelles que soient d'ailleurs ses œuvres, hein, je vais en parler un petit peu après, on le reconnaît tout de suite. Il a un trait vraiment à lui. On voit, il met du détail dans les visages, on ressent les émotions des personnages avec un trait un petit peu crayonné par moment qui retranscrit vraiment bien les situations. Et donc je suis vraiment adepte de son dessin. Après, je peux comprendre qu'on pourrait ne pas aimer parce que c'est pas un style classique. J'ai envie de dire, on voit une différence par rapport au standard entre guillemets qu'on peut avoir des fois dans le manga. Et par contre, c'est un auteur qui est assez jeune parce qu'en fait, il a que 36 ans, mais oui. Déjà, ouais. Au Japon, c'est un auteur très reconnu par rapport aux œuvres qu'il a fait. Il est vraiment de plus en plus en France. Il a fait d'autres œuvres, comme notamment Mauvaise Herbe, qui est, si vous avez l'occasion, vraiment une pépite à lire. Alors par contre, sur un sujet qui est beaucoup plus difficile, mais en 4 tomes, donc toujours chez les Arts Noirs, et, où là, on va suivre plutôt un policier qui va faire une descente dans normalement un salon de massage, entre guillemets. Sauf que malheureusement, c'est des maisons closes, mais avec des adolescentes, des jeunes filles dedans. Et il va tomber sur une jeune fille qui est le portrait craché de sa fille qui est décédée des années plus tôt. Et du coup, bah, il va essayer de l'aider comme il peut. Mais voilà, c'est une fille qui a beaucoup de soucis et c'est assez dur comme récit. Mais par contre, on est encore sur de la tranche de vie pour le coup. Mais c'est très émouvant et socialement, c'est vraiment très très chouette à lire, même si c'est quand même un peu dur. Après, il va avoir d'autres thèmes un peu plus légers, comme par exemple l'auto-école du collège Morimiya. Donc ça, c'est premier one shot. Ah ouais, il aime bien ces titres comme ça, où là, on va suivre la vie d'une auto-école, en fait, sauf une auto-école un peu particulière, où, avec des péripéties, où on se demande s'il y a avec des histoires un peu de yakuza, malgré tout, un petit peu, mais toujours dans l'humour, en fait. Là, c'est beaucoup plus humoristique. Très sympa. On va avoir un Summer of Love aussi, qui est un one shot qu'il a fait, où là on va suivre une ville qui est un peu une ville de campagne qui voilà commence à décliner malheureusement. Sauf que le volcan du coin va se remettre en mouvement et du coup ça va faire des bains. Ils vont se servir de toute cette chaleur là et du coup ça va redonner toute une vie à la ville et on va suivre la vie d'adolescents là-bas, de jeunes. Qui vont retrouver un peu le goût à la vie et suivre leur pérégrination. Donc on reste quand même toujours sur de la tranche de vie avec cet auteur-là. Mais vraiment, quel que soit son titre, je pense qu'on peut apprécier Keigo Shinzo. C'est vraiment un auteur que je conseille à tester, chez les Arts Noirs notamment.
Je donne mon avis du coup, parce que j'ai eu le bouquin tout à l'heure entre les mains. Je connaissais pas, et même la couve, tu la prends en main, elle te donne le sourire. Il y a une espèce de rayon de soleil qui vient de taper en plein cœur.
Ah bah oui, on voit le héros et sa cousine. Et lui, il a le grand sourire, les yeux fermés, les bras écartés dans le jardin avec le soleil. Genre, je me lève, voilà. La vie est belle, tout va bien, quoi.
C'est complètement ça. Et
c'est ce qu'on dégage vraiment. Celui-ci, il dégage vraiment ce côté. Alors bien sûr, on va apprendre quelques petites choses de sa vie. Tout n'a pas toujours été drôle pour lui, mais il arrive à dégager cette joie de vivre tout le temps.
Et on en vient presque à regretter que tout le bouquin ne soit pas en couleur comme la couve.
Oui, c'est vrai que la couleur, elle est vraiment chouette sur les couvertures.
Ça rend vraiment super bien.
Et le graphisme est à la, comment dire, concorde avec l'histoire que tu nous as racontée. On n'est pas dans un graphisme classique du manga. Là, c'est effectivement un graphisme très très équilibré, très centré sur les pages. Les dessins, d'après ce que moi j'ai vu, ne débordent pas. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très rassurant finalement pour un lecteur de se retrouver dans cet environnement graphique-là.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Ça, il a vraiment fait en sorte que tout nous plonge dans cette bienveillance, en fait, dans ce bonheur. Et du coup, ça marche vraiment très très bien.
Eh ben, écoute, merci beaucoup Fabien pour. Tu redonnes les refs.
Alors, c'est Hirayasumi de Kaigo Shinzo et c'est chez Le Lézard Noir.
Eh ben, écoute,
je conseille d'ailleurs cet éditeur qui est pas très connu parce que bah c'est souvent des titres un petit peu, je vais pas dire d'auteur parce que on peut pas dire ça, mais des ça change de l'ordinaire, on va dire un petit peu, et c'est pas mainstream, voilà pour faire simple. Mais après, quand on commence à lire des choses, et ben les personnes que j'aiguille vers ça disent, ah oui, c'est vrai que c'est une autre proposition en fait, et c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, on peut le voir, Lézard Noir, c'est un éditeur, il y a pas de jaquette, c'est cartonné dur,
c'est cartonné direct, ouais,
ouais, il propose pas de jaquette. Bon, ça c'est un choix éditorial, mais voilà, donc
ça permet de sortir un petit peu. Mais il y a plusieurs éditeurs, on va pas forcément refaire ça maintenant, mais par exemple les choses qui sont publiées chez Cornelius, c'est
oui,
pareil.
C'est pareil.
Là par contre, on est plus pour de l'expert, on va dire.
À Cornelius, c'est encore autre chose, c'est presque du patrimoine.
Ouais.
Du manga patrimoine avec des auteurs qui sont des anciens auteurs avec du Mizuki, ce genre de
choses. Des auteurs cultes mais méconnus en France.
Ouais, c'est ça.
La plupart. Mmh. OK. Bon, bah on va peut-être se plomber le moral avec un peu de Luc, du coup.
Non, on va changer de, on va pas changer de pays. Et
on reste au Japon.
Et voilà, on reste au Japon. Moi, j'ai le sentiment d'être un peu le vilain petit canard ce soir parce que on entend parler de manga et de manga.
Là, il y aura autre chose tout à l'heure. Ouais, on va parler de licorne dans le DBD.
On va parler de licorne. J'ai vraiment l'impression d'être un vilain petit canard. Je vous le cache pas, les gars. Mais c'est quand même là. Pour cette chronique là, c'est je vous emmène quand même au Japon finalement.
Ah.
Au Japon, ça nous change, hein. Mais on va aller dans quelque chose finalement de banal, à la fois dans le scénario et dans le dessin. Mais quand le banal est à ce niveau, pourquoi bouder son plaisir? Et là, je vais vous parler d'un roman graphique, Les Évaporés de Isao Mute, publié par les éditions Sarbacane. On reviendra sur l'auteur tout à l'heure. La bande dessinée, en fait, ça commence dans un quartier pavillonnaire. Un homme, Kazé, est assis à son bureau. Il écrit une lettre à sa femme. Il se lève, sort de sa maison, devant laquelle un taxi l'attend. Il part, ou plutôt, il s'évapore.
C'est un petit peu radical comme expression, ça, non?
Non, parce que c'est vrai que c'est radical, mais c'est ainsi quand on subit un affront au Japon, l'orgueil, la fierté, mais plutôt la honte, te font choisir de disparaître. En France, on a une expression, on voudrait rentrer sous terre. Eh ben, au Japon, on s'évapore.
Ok. Tu peux nous en dire un petit peu plus sans divulguer?
Sans divulguer, je peux faire ça, Seb, je peux te faire ça. Cet homme, donc, Kazé, a été licencié à la manière japonaise, du jour au lendemain. C'est violent, et la pilule est dure à avaler. Alors, il revient subrepticement et télécharge de nombreux documents sur une clé USB. Il veut comprendre. Et dans sa petite chambre, dans un hôtel miteux, il explore les documents téléchargés et comprend les raisons de son licenciement. La vengeance va être ce qui va l'animer. Mais l'entreprise va découvrir que des documents lui ont été dérobés, et pour le dire clairement, ça va pas lui plaire. Cela ne suffisait pas à Kazé qu'il se soit évaporé, il doit en plus maintenant envisager la fuite. Au même moment, à 160 km de là, à Okuma, préfecture de Fukushima, le deuxième accident nucléaire le plus grave de l'histoire vient d'avoir lieu. On est quelques jours après le 11 mars 2011, jour du tsunami de célèbre mémoire. Tout le territoire est dévasté et un jeune garçon se retrouve seul, ses parents ont disparu. Il ne veut surtout pas aller à l'orphelinat, alors il part à pied, direction Tokyo. Là, il trouve un petit boulot dans une gargote, puis lui aussi, cela va mal tourner. Et comme pour Kazé, a aucune autre solution que de tenter de s'échapper. Et tout le roman va nous raconter le périple que vont faire ces deux éclopés de la vie pour qui sait atteindre la résilience.
C'est de qui cette BD ?
Cette BD, c'est de Isao Moutet. C'est adapté d'un roman de Thomas B. Reverdy, qui porte le même titre. Et Isao Moutet, c'est un jeune dessinateur, enfin c'est un dessinateur franco-japonais qui a été diplômé aux Beaux-Arts d'Angoulême. Il aborde, donc dans ce roman, il aborde entre autres un phénomène très spécifiquement japonais, les disparitions volontaires. Ils sont plus de 80 000 par an à disparaître comme ça, volontairement. Tous ne s'évaporent pas définitivement. Beaucoup regagnent la vie normale. Mais c'est à partir de ce particularisme culturel que la BD se construit. Levier pour nous dire le pays du soleil levant. Ce pays totalement inégalitaire, dans lequel les pauvres restent pauvres et doivent se débrouiller seuls pour survivre. Ce pays où les mafias et leurs tristement célèbres yakuza sont là, dans l'ombre, à capter tout ce qu'elles peuvent, des centaines de rin, c'est le centième de yen, auprès des plus pauvres, aux millions de yens des plus riches. Mais ce pays a la culture millénaire et aux codes sociaux très stricts. Isao Moutet est au scénario et au dessin de cet épais roman graphique et le résultat est tout à fait passionnant. Son destin est fort, c'est du noir et blanc. C'est un dessin sans doute à la plume qui se tourne à certains moments vers la gravure. On est dans le réalisme le plus simple et le plus évident. Et franchement, Isao Moutet s'y exprime à plein et on sent qu'il ne se donne pas de limites pour que la poésie et l'émotion soient exprimées. La première planche, en pleine page, une villa appuyée à une montagne, c'est la nuit, c'est superbe. Et puis il y a la page 22, c'est à nouveau une planche pleine page, et c'est Lyon, en France, qui est représentée, et cette page est tout à fait aussi sublime. Cet album est véritablement une promenade graphique, élégante, subtile, qui n'abuse pas des effets. Par son seul trait, Isao Moutet réussit à nous faire saisir des bribes d'une culture qui nous est étrangère. Si nous n'en sommes pas familiers, Isao Moutet nous les fait comprendre.
Tu nous as dit que c'était une adaptation. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi c'est tiré ?
Alors, c'est tiré d'un roman rédigé par un Français, mais que moi je n'ai pas lu pour une fois, Thomas B. Reverdy.
Un rare roman que tu n'as pas lu en fait.
Parmi les centaines de romans que je n'ai pas lus, mais voilà, je n'ai pas voulu le lire. En plus, je me suis limité à ce roman graphique. Et j'ai le sentiment, c'est du moins ce que la lecture de l'adaptation laisse comprendre, qu'Isao Moutet a réussi à y instiller l'essence même de la culture japonaise. En anthropologie, on va dépasser un peu le stade du manga, on va parler d'anthropologie, on parle de vernaculaire, c'est-à-dire tout ce qui révèle une culture, en l'occurrence ici celle du Japon, et que l'on ne peut pas comprendre si on n'est pas soi-même membre de cette culture. Le scénario intègre donc cela naturellement, mais à l'opposé, on est dans la plus extrême modernité. Si à un bout de l'échelle on trouve des codes sociaux séculaires, à l'autre on trouve l'immoralité des sociétés industrielles et de l'économie libérale, l'extrême violence des bandes mafieuses, les luttes dérisoires des opprimés. Et Isao Moutet nous dit cela presque avec douceur, sans manichéisme. À le lire, on a le sentiment qu'il nous respecte en nous laissant faire le cheminement intellectuel, seul, sans violence. Et on ressort de cette lecture enrichi, plein, sans ce sentiment de s'être fait instrumentalisé si fréquent dans les romans, où l'auteur est obligé d'user de subterfuges pour reposer le bien et le mal. C'est un polar magnifique parce qu'au terme presque intemporel, voyage graphique d'une évidence beauté, les évaporer, ça se mérite. Et à mes yeux, il porte le 9e art au plus haut. Et c'est édité par les très bonnes éditions Sarbacane.
Bon, en tout cas, ça fait vraiment envie. Graphiquement, c'est sûr que c'est une plongée dans... J'ai pas le mot, en fait.
C'est un travail graphique. Ça se rapproche presque de la gravure. Quand on voit les contre-couvertures, on est presque dans le domaine de la gravure classique. Quand on voit la qualité du dessin des personnages, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez dense. Tout est en noir et blanc. Et je trouve que le rapport entre quand on voit la vue de Fukushima, on est sur une double page dévastée avec juste quelques maisons qui restent. C'est vraiment, c'est pas Fukushima, c'est Okuma en réalité. C'est vraiment très impressionnant. Voilà, moi c'est un roman que j'ai adoré.
Et puis on est quand même pas très loin du manga. Hein.
On n'est pas loin du manga, mais on n'est pas dans le manga.
On est sur un format un peu hybride. Oui. Enfin, on est sur un format BD, clairement, oui. Pardon. Oui. Mais en termes de graphisme, ça me rappelle aussi certaines choses qu'on peut avoir dans les mangas. Plutôt, du coup, du Seinen, où ça me fait penser à L'Outre-Mangeur. Je ne sais pas si ça te parle.
Ah non, je ne connais pas ça.
Qui est un manga sur un homme qui mange beaucoup. Et je retrouve un peu cette patte graphique. Mmh. Et du coup, ça marche super bien.
Mmh. Moi, je trouve que le travail d'Isamote, justement, il est intéressant parce qu'il n'invente pas un Japon, il nous dessine et il nous raconte le Japon, et c'est vraiment très très, enfin pour moi c'est très fort quoi. Voilà.
Ben c'est vivant et puis c'est du vécu, hein, mais c'est splendide.
Ouais, c'est chouette, ça a vraiment l'air très sympa.
C'est très sympa, ça n'a pas l'air sympa.
Ok, c'est très sympa.
Du calme.
On te fait confiance. On te fait confiance, on ne t'a jamais mis en doute.
Non, mais des fois.
Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. Alors, on va aller très loin du Japon, du coup, maintenant.
S'il te plaît, dis-moi pas que c'est encore du lorry.
Préviens-nous.
Non, c'est pas du lorry, mais c'est une expérimentation aussi. J'ai découvert un type qui s'appelle Monique Production, et sa particularité, c'est de prendre des morceaux musicaux et d'imaginer comment ils auraient été interprétés par d'autres artistes. Mmh. En l'occurrence, là, je vous mets Another One Bites the Dust de Queen, comme s'il avait été interprété par Queen. On se retrouve juste après.
J'ai pas compris là.
On recommence. Another One Bites the Dust de Queen, comme s'il avait été interprété par AC/DC.
Ah, on se retrouve
juste après. C'était Monique Production avec Another One Bites the Dust version AC/DC. Donc voilà, très original. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un constat qu'on faisait tout à l'heure, on se moque pas. Mais il a un handicap à une main et il joue de la guitare mieux que moi quand on est 5. Donc,
C'est mieux que ton premier choix musical.
Ouais, ouais, c'était quand même
indéniablement. C'était quand même beaucoup plus sympa.
Je sais pas, on s'y retrouve plus, tu vois.
Ok, je note. On va rester sur des choses un peu plus consensuelles, du coup. Je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Licorne Detective Club.
Oui, c'est vraiment consensuel.
C'est publié aux éditions Jungle. On a trois auteurs, autrices, autres... Je suis perdu, j'y arrive plus. Trois auteurs, donc c'est une histoire de Karim Allan, dessinée par Geoffroy Champin et mis en couleur par Gabriel Bargiel. Alors, comment résumer Licorne Detective Club? C'est pas simple. Hein. Imaginez que le monde se divise en deux parties. Alors, pas en deux catégories, on est passé dans Sergio Leone. Mais il y a une partie plutôt telle qu'on la connaît, et puis une partie qui s'appelle plutôt l'Infraworld, qui est un monde dans lequel il y a une ville qui s'appelle Infracity, dans laquelle on a des monstres. Et le Licorne Detective Club, ce sont trois jeunes filles qui ont la capacité d'ouvrir un portail magique vers l'Infraworld et qui vont mener des enquêtes pour ça. Alors, elles ont toutes un petit quelque chose. Il y en a une dont les parents ont disparu, en fait, lors d'un événement qu'on ne comprend pas vraiment et qui ne nous est pas forcément expliqué. C'est tout l'intérêt d'avoir une série, ça nous met des petits trucs pour aller chercher plus loin. Et on va suivre ces trois gamines qui enquêtent pour résoudre certains des problèmes des gens d'Infracity pour éviter que ça déborde un petit peu sur le monde, on va dire, normal. C'est très pop, très coloré. La couverture est rose bonbon avec le thème licorne, vous l'auriez imaginé, mais c'est plutôt drôle. C'est trois gamines qui sont plutôt à la frontière de l'adolescence. Il y en a une qui a tendance à vouloir plutôt aller faire du skate parce que les garçons l'intéressent un peu plus. Elle veut pas mettre le t-shirt un peu bébête de ses copines. Et on a cette espèce de passage à l'adolescence qui fait que les choses qui nous faisaient marrer, la magie, a tendance à passer un peu à l'as. L'histoire est autant louvedingue que le titre le laisse supposer. On a des fantômes, on a des vampires, on a le maire d'Infracity qui veut forcément envahir la ville la ville standard dont j'ai perdu le nom. Il y a des explications qui sont un tout petit peu tirées par les cheveux à tel point que moi j'en ai plus. Mais ça marche bien. De c'est cheveux. Plutôt drôle. Les cheveux, oui.
Non, la ville s'appelle Summer City.
Summer City, voilà. City, ouais. Infracity, voilà. On voit bien l'opposition entre les deux. Mais ça marche bien. C'est plutôt cool à lire, ça demande pas prise de tête. Il y a des vannes toutes les quelques pages. Il y a une des gamines qui est chamane dont les parents sont d'origine indienne. Du coup, elle a les grands-parents. Elle est censée avoir un animal totem. Vous découvrirez son animal totem. Mais on va pas dire que le titre spoil un petit peu. Mais vous allez voir, c'est drôle, c'est feel good, hein, un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, Fabien, ça marche bien, c'est fun, c'est frais, on se prend pas la tête et on passe un bon moment. Et une fois l'ouvrage refermé, on a envie de savoir ce que deviennent ces gamines après et de connaître la suite. Quel est cet événement en fait qui a propulsé, qui a fait disparaître en fait une partie des gens qui étaient à la surface dans Infracity, puisque visiblement ils sont dans Infracity. Voilà, ça paye pas de mine, ça mange pas de pain, mais ça marche bien. Donc, voilà.
Ça s'adresse à qui?
Plutôt les plus jeunes.
Ouais.
Début d'ado, je pense que ça peut être la dernière limite.
Ouais.
Sur 8-12 ans, quoi.
Ouais, voilà. Ouais, la tranche 8-12 ans, ça passe bien.
En tout cas, c'est ce que fait penser la colorisation et puis le dessin.
Ouais, c'est très pop. Y a un côté bubblegum, en fait.
Ouais.
Ouais, mais avec des choses intéressantes, quand même. Des cases avec des cris avec et je trouve que ça permet au public, au jeune public de rentrer dans la BD, enfin de commencer à rentrer dans de la BD beaucoup plus comment dire consistante. Je trouve ça vraiment intéressant, moi, ces aspects de textes là qui sont un peu percutants. Je trouve ça bien, c'est pas mal.
Ouais, c'est pour ça que j'en parle, hein, parce que au départ j'ai vu la couve, j'ai fait oh là, il va falloir que je me farcisse ça. Et je préfère être franc avec les auditeurs, hein. Des fois il y a des choses, on les prend en main, on se dit oula, est-ce que je vais arriver à aller jusqu'au bout? Et si on en parle dans l'émission, c'est qu'on a été jusqu'au bout et qu'on a passé un bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Tiens Luc, je veux bien que tu redonnes les refs du coup.
Alors Licorne Detective Club volume 1 de Karim Allan, Geoffrey Champlain, Gabriel Bargiel, et c'est aux éditions Jungle.
Et c'est sorti récemment?
Ouais, c'est pas vieux. Alors, je pense que ça a quelques mois.
Je vais
hein.
me précipiter.
Grand maximum.
Meubler, il faut que vous meubliez pour alors, que je trouve la.
On va meubler, alors.
La dernière page,
je trouve la dernière page. J'ai pas manque de chance, c'était sur la première.
Ah là
là. Là, c'est de la radio.
Actuellement, nous avons Luc qui tourne page par page. Oh là là, quelle manie.
Voilà, et c'est 2023, août 2023. Voilà, c'est août 2023.
Donc c'est le tour de l'été.
Ouais, voilà. Voilà. Et c'est imprimé en France. Donc c'est bien.
Bah ouais. Mais, de toute façon, ce qui est pas bien, on n'en parle pas.
Voilà.
Voilà. Là, c'est un peu la politique de la radio, enfin, de la Caisse de Sèvres, en tout cas, c'est notre bon. C'est-à-dire que c'est bien, on va en dire du bien. Voilà. Même s'il y a des points sombres, bah, on peut aller dessus. On part sur complètement autre chose avec Toutes pour un d'Olivier Guay et Joanne Aucomte. Donc Olivier Guay qui est au scénario, Joanne Aucomte qui est au dessin à la couleur et Joanne Guillet qui supplée à la couleur. C'est publié chez Dracou. C'est un volume qui est plutôt massif de je ne sais pas combien de pages. Je n'ai pas compté le nombre de pages. Mais c'est une histoire complète. Ce qui est plutôt cool, un bel album donc il y a 134 pages avec un petit signet pour arriver à ne pas se perdre dans l'album. Comment vous résumez ça? Imaginez un monde fantastique où tout va bien. Il y a c'est un monde, on va pas dire de féerie, mais c'est un monde de fantasy où on peut pratiquer la magie, mais seuls les princes, princesses, rois, reines ont la capacité de gérer de la magie. Eh ben, imaginez que dans ce monde où tout se passe bien, un jour, il y a un truc qui se passe mal. Et il y a un royaume qui se fait envahir par des espèces de cafards géants sont potentiellement indestructibles. Parce qu'on a beau taper dessus, ils n'ont pas l'air de prendre cher. La princesse de ce royaume va tenter de se défendre avec sa magie. Et elle est accompagnée d'une garde qui va tenter, avec l'aide de son épée, de défendre sa princesse. Et ça marche pas, parce que ces créatures sont beaucoup trop fortes, et c'est beaucoup trop compliqué d'arriver à se défendre. Et là, il y a un jeune serviteur larbin, qui s'empare d'une épée qui est accrochée au mur, et qui, comme s'il avait emparé un couteau face à une motte de beurre, tranche la créature en deux, et on sait pas vraiment pourquoi, mis à part que l'épée lui est... luisait, émettait une lueur bleutée.
Voilà.
On va mettre faut que j'arrête de prendre des mots compliqués. Et du coup, on comprend pas vraiment pourquoi cette épée est si forte. Devant ces créatures beaucoup trop fortes, notre trio décide de s'enfuir et va trouver refuge dans un aéronef piloté par une troisième jeune femme qui a l'air plutôt inventive. Et ils vont fuir le royaume et au moins la capitale puisque la salle du trône où étaient les parents de la princesse vient d'exploser, emmenant visiblement avec elle ses occupants. Et du coup, ils vont essayer d'aller trouver de l'aide dans le royaume voisin, en essayant de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, il y a ce road trip qui se met en place avec ces quatre personnages, clairement trois héroïnes fortes, trois héroïnes avec des faiblesses, et un compagnon de voyage garçon qui s'appelle Heather et qui est grosso modo le neuneu. C'est pas moi qui le dis, c'est le perroquet de la capitaine de l'aéronef et clairement neuneu. Mais il attire toutes les convoitises parce que il sait utiliser cette épée qui ne sert à rien dans les mains des autres. Il est courageux, il est plutôt pas trop moche et il est au milieu de ces trois filles qui vont pas s'entre-déchirer pour lui. Mais grosso modo, elles vont avoir beaucoup d'affection pour lui. Les trois héroïnes, elles ont chacune un caractère qui est, on va pas dire caricatural, mais plutôt archétypal. On a la princesse qui avait tendance à tout avoir pour elle et de s'être un petit peu renfermée dans ses acquis, qui va découvrir le monde. On a la jeune garde qui est complètement dans son devoir et ne sait pas avouer les sentiments auprès du garçon qu'elle aime depuis des années, quitte à se le faire piquer par quelqu'un d'autre. Et puis la capitaine d'aéronef, qui va à la limite être un petit peu trop arrogante, parce que très intelligente, très fière, très libre. Et ben ce road trip, il marche très bien. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'action, on perd pas de temps, on a beaucoup de pages, mais ça passe très vite, ça passe bien. Il y a des vannes, il y a des clins d'œil et des easter eggs, des petites refs qui sont posées par-ci par-là sur des gags que personne ne comprendra à part ceux qui ont la ref.
J'ai vu une page qui m'a un petit peu fait rire là en vitesse où t'as une des trois filles qui doit se changer pour un événement et en gros il y a les paroles de Pretty Woman et puis elle se change en plusieurs personnages féminins qu'on connaît bien.
Donc ça c'est des vannes qui pour nous adultes passe. Moi je confie ça à ma fille, la vanne elle la verra pas.
Ah bah non, clairement.
Il y a des vannes aussi que je m'explique moins et qui me sortent pas du récit, mais on a un narrateur qui pose des vannes tout le temps, qui nous raconte l'histoire. Et alors, j'ai pas tout à fait fini la BD, mais j'ai pas l'explication sur ce narrateur qui s'adresse directement à nous et qui nous fait des vannes juste pour nous.
Ok.
C'est un petit peu. Et à un moment, ils ont faim, il y a des oiseaux qui passent et on nous dit ah là là, en plus c'est des oiseaux qui sont gracieux et leur viande est super bonne. Et il y a d'autres bestioles qui arrivent après qui sont un peu plus dangereuses et puis de toute façon elles sont dangereuses, en plus leur viande elle est dégueulasse. Et on nous le dit à nous et pas forcément au personnage. Enfin c'est.
Ok.
Donc c'est barré, c'est drôle, c'est un univers qui vous connaissez mon plaisir à faire du jeu de rôle qui pourrait tout à fait se décliner en jeu de rôle puisque il est cohérent et il fonctionne de bout en bout et ça marche bien. Graphiquement en plus, moi je trouve ça très joli, c'est très détaillé, c'est plutôt fin. Les personnages sont plutôt facilement caractérisables. Il y a un ou deux ratages sur certaines cases, mais je pense qu'il y a eu des rotations de cases qui font que un bracelet passe d'une main à une autre parce qu'on a retourné la case. Ça arrive. Ce qui se trouve dommage, c'est quand moi je le vois.
C'est ça.
Bah, oui. Mais sinon, ça marche très bien. L'édition, moi, c'est vraiment.
L'édition est belle, hein.
Le bouquin est super beau.
Je trouve que la couverture, elle est sympa, hein. Avec cette petite effet miroir, là.
Ouais, il y a un effet brillant.
Un effet brillant dessus.
Sur la lueur avec un effet brillant, oui, c'est pas mal, ouais.
Bah, puis, chose rare, on a ce petit signet
oui.
Sur un bouquin qui est quand même assez dense, qui marche bien. Et, moi, c'était une belle surprise et vraiment une belle aventure avec des rebondissements que tu vois pas forcément venir, mais qui marchent vraiment cool. Donc, et puis une histoire complète. Le seul reproche que je ferais à ça, c'est que quand t'as fini, tu dis je veux autre chose derrière. Donc, faites-nous un tome 2. Faites mentir le fait histoire complète et faites-nous autre chose dessus.
Mais dans.
Oui.
Vraiment, à la page juste après qu'il y ait fin, il indique que potentiellement il peut y avoir d'autres histoires dans ce monde.
Eh ben, on peut, hein. Moi, je l'ai pas fini encore.
Je te spoil. Donc, il y a un truc.
Donc, la porte est ouverte pour d'autres épisodes.
Il y a marqué fin, il y a marqué peut-être d'autres histoires dans ces contrats.
Oui, donc. Eh ben, écoute, avec un grand plaisir que je les prendrai, ces nouvelles histoires.
C'est du teasing, ça.
Voilà. Je regardais ce que faisait le monsieur, Olivier Jay. Et apparemment, romancier de policier, a travaillé sur des franchises comme Star Wars et autres.
Ok, voilà. Donc le mec, les univers, il connaît.
Voilà.
Bah peut-être qu'au détour d'un prochain polar de Luc, hein.
Qui sait, hein.
That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est pour qui annonce la fin de l'émission. Vous pourrez retrouver dans quelques instants le podcast sur le www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. J'en profite pour vous dire de ne pas oublier d'aller voir aussi les autres émissions. Il n'y a pas que La Case de Seb, même si c'est forcément la meilleure émission de la grille.
Ça reste à voir.
C'est la seule où on diffuse Laurie.
C'est ça. Ça, c'est pour ma part.
Tu vois, c'est bien possible.
N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, même si je suis pas très actif, normalement ça va y retourner dans pas très longtemps. Je remercie mes camarades de m'avoir accompagné encore dans cette frange déconnade ce soir. Et puis merci à vous pour vos conseils. J'y arrive plus ce soir. Et on se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours. Et n'oubliez pas de lire en attendant. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku Oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, d'un petit ch'tou.
Trompez vite. Il est parfaitement ici.
Justement, les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
de chez toi.
101.5 FM.